15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Ici, tous les jours, de 15h à 16h, nous vous recevons avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au bien vieillir. On le sait, l'espérance de vie ne cesse d'augmenter et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a plutôt tous envie de finir centenaire, mais surtout, si c'est en bonne santé, eh bien avec notre invité, le professeur Philippe Amouyel, spécialiste des maladies liées au vieillissement au CHU de Lille, nous ferons le point sur ce que c'est le bien vieillir. Il nous donnera d'ailleurs tous ses conseils pour y arriver, conseils qu'il faudrait appliquer au moins dès 40 ans. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de la transmission du VIH suite à une vidéo qui fait polémique où l'on voit un policier se faire cracher du sang à la figure soi-disant de la part d'un manifestant séropositif. De nombreuses idées reçues circulent. Jimmy fera bien sûr le point. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler des soupes, surtout celles industrielles vendues toutes prêtes en supermarché. Sont-elles vraiment aussi bonnes pour la santé qu'elles le prétendent ou comment bien les choisir si vraiment vous n'êtes pas prêt ou apte comme Jimmy à faire des soupes maison. Enfin vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de bisexualité. Enfin, Catherine répondra à la question d'une jeune femme qui s'interroge sur le passé homosexuel de son compagnon.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle de Patrick, 42 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, docteur Jimmy. Est-ce qu'il est bon de donner du Topexil à mon bébé en avion pour qu'il dorme? Est-ce qu'il y a des risques?
Alors Jimmy, je ne vous vois pas content là, Jimmy, le Topexil.
Il faut répondre à la question.
Voilà, effectivement. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux, on va en parler, et sur les forums de maman. Est-ce que donner du Topexil à un bébé pour le faire dormir, c'est une bonne idée? Ça, on va voir, mais on est d'accord, d'abord, le Topexil, ça ne sert pas du tout à ça.
Alors le Topexil, c'est un sirop antitussif, donc contre la toux, qui contient un composé actif qu'on appelle l'oxométasine, qui est un antihistaminique qui appartient à la famille des phénothiazines. Donc quelque chose assez qui fait peur, voilà. À juste titre. Ce sirop, donc, il est antitussif et aussi sédatif. Et c'est par l'effet de sédation qu'on tousse un peu moins et il est strictement contre-indiqué chez l'enfant de moins de 2 ans. Donc on ne donne jamais de sirop chez un enfant et encore moins pour le faire dormir.
Et donc si cet homme donc pose la question, c'est que malheureusement ça se fait. Il suffit d'aller, donc je le disais, sur des forums de maman pour voir qu'elles s'échangent ce truc entre elles en disant oh ben moi j'ai testé le Topexil, ça marche bien pour voyager en avion, t'es tranquille, il dort. Bon, c'est tout à fait déconseillé, on est d'accord.
De la même façon qu'on donne pas de l'alcool à un enfant,
non,
ni un somnifère,
pas de biberon, pas de rien du tout.
Exactement. Ouais. Alors c'est vrai que c'est compliqué parfois de voyager avec un enfant. On voit aussi ce genre de choses, notamment dans les mariages, pour que les enfants soient un peu plus calmes. Certains veulent donner du Topexil. C'est strictement contre-indiqué car finalement, il y a des risques et des risques plutôt graves.
Mais c'est quoi les risques finalement, justement?
Alors, déjà, il ne faut pas oublier que le Topexil, il sédate. Et donc, s'il sédate, il entraîne une baisse de la vigilance. Donc, si vous donnez du Topexil à un bébé de moins de 2 ans, il risque d'être somnolent et puis il peut y avoir des effets secondaires graves avec des convulsions, il peut y avoir des troubles du rythme cardiaque.
Il suffit de regarder la notice du médicament, c'est écrit, il y en a.
Exactement. Un enfant qui peut avoir une baisse de l'attention, des troubles de la coordination, des tremblements, il peut être confus, agité. Et puis si finalement vous lui donnez une trop grosse dose sans faire exprès, il va être endormi. Et comme il va être endormi, il va perdre ses réflexes de déglutition. Et du coup, s'il vomit, il va s'étouffer dans son vomi et il risque de mourir.
Vous nous avez calmé, on peut arrêter.
Exactement.
Là.
Et on a fixé cette règle de 2 ans pour le Topexil car on s'est rendu compte qu'un des composés pouvait être mis en cause dans les morts subies du nourrisson. Donc on s'est dit, on va le déconseiller à juste titre. Donc jamais avant 2 ans et vraiment jamais pour les bébés et encore moins pour l'indication de les calmer. Parce que oui, un bébé, ça peut être chiant, mais c'est la vie.
C'est comme ça. Et puis si on peut pas supporter un voyage où il va pleurer en avion, ben on prend pas l'avion.
Exactement.
Tant pis,
on voyage
chez soi. Et puis c'est tout.
C'est pas la fin du monde.
Voilà. Merci beaucoup Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Capucine, 30 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie. Bonjour docteur. Je vous appelle parce que je suis enceinte et je dois passer une échographie. Mais le médecin m'a dit de ne pas mettre de crème sur le ventre le jour de l'examen. Et je comprends pas tellement pourquoi. Je voulais savoir si vous pouviez m'aider.
Alors Jimmy, les femmes qui ont déjà peut-être passé des échographies lors d'une grossesse l'ont sûrement entendu. Pas de crème sur le ventre, pas d'huile. Pourquoi en fait ?
Alors c'est vrai qu'à la base, ça concerne essentiellement les crèmes anti-vergeture. Et puis on les a étendues.
Oui, parce que c'est ça qu'on se passe sur le ventre en général à cette époque de
exactement.
La vie en tout cas.
Et on l'a étendu aux crèmes, aux huiles, car finalement, dans les 3 jours, on s'est rendu compte que si on en appliquait, ça pouvait gêner le passage des ultrasons lors de l'échographie et finalement moins bien visualiser le fœtus, chose pour laquelle on fait l'échographie.
Et en fait, c'est comment ça fonctionne ? C'est que ça empêche le son de passer, c'est ça ? Parce
exactement.
Que c'est gras, comment
alors, ça empêcherait les ultrasons de passer totalement parce qu'ils vont créer une barrière supplémentaire et du coup, l'exploration du bébé serait de moins bonne qualité. À ce moment-là, la crème, plus la crème est grasse, mm-hmm. plus le risque est important. Et parfois, c'est vrai qu'on peut avoir des cicatrices et on veut les masquer, les camoufler, mais jamais avant 2-3 jours, c'est recommandé. Et en règle générale, on vous prévient.
Une dernière chose, puisqu'on parle des échographies et de bien voir le bébé pendant l'échographie. Moi, on m'avait conseillé, ça n'a rien à voir avec les crèmes, de boire beaucoup d'eau avant. C'est important, ça aussi, ça aide à mieux voir le bébé.
Alors, on dirait, certains disent que ça augmente la quantité de liquide amniotique.
Ouais.
Les choses ne sont pas si sûres, puisque parfois des femmes souffrent d'oligo-amio, c'est-à-dire peu de liquide amniotique. Et ce n'est pas pour autant qu'on va les perfuser en leur donnant 10 litres d'eau par jour, en
ouais.
disant qu'on va augmenter. Donc,
bon, de toute façon, il faut
pas,
boire pendant la grossesse.
Buvez, ça peut, parfois, certains radiologues disent que ça peut améliorer la visibilité.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Capucine qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des conséquences, pas des conséquences du tout, je dis n'importe quoi. Il va nous parler de la transmission du VIH. On en parle dans quelques minutes. Et puis, on accueille aussi notre invité du jour, le professeur Amouyel, qui va nous expliquer comment bien vieillir. Et vous verrez, ça se prépare une vieillesse en pleine forme très tôt. Il faut commencer dès 40 ans. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le professeur Amouyel, avec qui nous allons tout vous dire sur le bien vieillir, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous allez faire plutôt une mise au point sur le VIH et surtout déconstruire certaines idées reçues qui peuvent circuler depuis l'interpellation d'un jeune homme qui aurait craché donc du sang au visage d'un policier en disant « j'ai le sida, tu vas crever ». Alors, on ne va pas commenter cette affaire, ce n'est pas notre but ici dans ce rendez-vous, mais juste une petite mise au point sur le VIH, parce que nous, on parle de santé, on est d'accord, le VIH et le sida, déjà, ça n'a rien à voir. Hein.
Oui, une personne séropositive n'a pas forcément le sida. Lorsqu'elle dispose d'un traitement, elle vit simplement avec le virus et finalement a une espérance de vie similaire à une personne qui serait séronégative. Aujourd'hui, être séropositif, ce n'est absolument pas une condamnation à mort. Et le VIH ne peut pas être considéré comme une arme, notamment lors de cette défense utilisée par certaines personnes.
Bien sûr. Alors, on est d'accord aussi que la principale transmission du VIH, ce n'est pas de cracher à la figure de quelqu'un, c'est la voie sexuelle. Hein.
Exactement. L'infection par le VIH qui est responsable du sida est une maladie transmissible dans certaines circonstances bien précises. Le plus souvent, elle se produit lors de rapports sexuels. Ce n'est pas une maladie contagieuse qui s'attraperait sans contact, comme la grippe, de la même façon, on ne l'attrape pas lorsqu'on s'embrasse, lors
bien
d'un
sûr.
Baiser, lorsqu'on prend une douche ou on se baigne ensemble, lors d'un éternuement, lorsqu'on tousse, lorsqu'on est piqué par un insecte qui aurait piqué quelqu'un
sûr,
avec le
ça,
VIH,
ouais.
le partage d'un verre, de vêtements, bref. Les modes de transmission, on les connaît bien. Rapport sexuel
non protégé, ça c'est certain.
Préservatif. S'il y a pénétration vaginale, anale ou parfois buccale, un contact important avec du sang contaminé lorsqu'on partage notamment du matériel d'injection ou lorsqu'on se pique en cas d'exposition, notamment pour les soignants. La transmission de la mère à l'enfant est possible lorsque la maman n'est pas traitée et pendant l'allaitement. La salive ne transmet pas le VIH car c'est le principal problème en ce moment. Le VIH a une très faible résistance à l'air. Après 5 à 10 secondes dans l'air libre, une goutte de sang ne contient absolument plus de virus.
Voilà, et ça c'est très important de le dire. Et puis juste aussi un dernier petit ajout, être porteur du VIH, ça ne veut pas dire forcément le transmettre en plus non plus. Hein.
Exactement, c'est ce qu'on appelle le treatment as prévention. Alors excusez-moi de l'accent, mais c'est une réalité.
Ouais, il est pourri.
Une personne séropositive sous traitement, dont la charge virale est indétectable, devient intransmissible. Cela veut donc dire qu'on peut ne plus transmettre le virus, quel que soit le mode de transmission, lorsqu'on est bien équilibré. Il est comme nécessaire de rappeler la responsabilité de tous dans la transmission de certaines informations. Il faut éviter de stigmatiser, de
bien
relayer
sûr.
Certaines fausses croyances qui finalement vont stigmatiser toujours les mêmes catégories de population.
Merci Jimmy pour cette mise au point nécessaire sur le VIH. Alors tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le professeur Philippe Amouyel, spécialiste des maladies liées au vieillissement au CHU de Lille, mais également directeur de la Fondation Alzheimer.
15h, 16h,
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour professeur Amouyel.
Bonjour Mélanie.
Alors avec vous aujourd'hui, on va parler du bien vieillir. Je suis sûre que ça intéresse tout le monde. On a tous envie d'être des jolis petits vieux en pleine forme d'ici quelques années ou même maintenant. Mais bien vieillir, ça a une définition très précise. Le bien vieillir en épidémiologie, c'est quoi ?
Alors en fait, dans une population comme la France, on vit tous de plus en plus longtemps. Alors c'est une très bonne nouvelle.
Ouais.
Seul problème, c'est que malheureusement, souvent, on est beaucoup plus malade que quand on était jeune. Donc réellement, le bien vieillir, c'est d'essayer de repousser la fréquence, l'apparition, les complications de ces maladies le plus tard possible, voire même quelques mois avant le décès, et pouvoir profiter ainsi pleinement de ces années de vie en plus.
C'est ça, ce que vous appelez la morbidité, la compression.
La compression de la morbidité.
C'est avoir toutes les maladies à la fin.
À la fin, et on est quasiment en pleine forme. Voilà, c'est ça, on vit tous 100 ans. Il faut savoir qu'une petite fille va vivre, a une chance sur deux de vivre 100 ans aujourd'hui. Donc le mieux qu'elle puisse faire, c'est vivre le plus longtemps possible sans maladie et sans problème. Et finalement, dans les derniers jours de sa vie...
Ça serait idéal, on en rêve tous. Jimmy ?
Justement, parce que ce qu'on craint, c'est une pandémie mondiale de maladies liées au vieillissement.
C'est exactement le modèle inverse. C'est-à-dire que l'espérance de vie, qu'on va dire sans incapacité, n'augmente pas aussi vite que l'espérance de vie totale. Et donc, on est tous de plus en plus malades. Et comme la population du monde a tendance à vieillir actuellement, on aurait une épidémie mondiale, ce qu'on appelle une pandémie de maladies chroniques liées à l'âge.
Parce que l'espérance de vie, vous l'avez dit tout à l'heure, on vit de plus en plus vieux. Une petite fille aujourd'hui, moi j'ai une petite fille de 2 ans, admettons, elle a des chances de devenir centenaire.
Elle a des chances de devenir centenaire. Ça veut dire que si elle a 2 ans aujourd'hui, on est en 2020, elle vivra jusqu'en 2120.
Elle a une chance sur combien de...
Une chance sur 2, on dit aujourd'hui.
C'est pas mal.
C'est pas mal, c'est pas mal. Enfin, aujourd'hui, c'est encore pas mal. Hein. On est chez les hommes, on progresse toujours. L'espérance de vie continue à progresser. On est à 79,5 ans chez les hommes.
Je croyais que ça stagnait, moi, maintenant. Non,
en France, non. Mmh. On a toujours cette progression. 79 ans aujourd'hui, c'est les hommes. Et 84 ans, 85 ans chez les femmes.
Et vous disiez que l'objectif du bien vieillir, c'est de repousser ces maladies liées au vieillissement, admettons, aux 6 derniers mois de la vie, ça serait génial. Mais on ne pourrait pas aussi imaginer qu'il n'y a pas du tout de maladies liées au vieillissement et que finalement, on meurt un jour comme ça, hop, de sa belle mort. On s'éteint, quoi, parce qu'au bout d'un moment, ça s'arrête. Mais sans maladie, c'est possible ?
Généralement, on s'éteint pour une mauvaise raison.
Ouais.
Sinon, on ne s'éteint pas. En fait, l'idée, ce serait plus d'avoir un décès exempt de douleur. Ça serait forcément par rapport à une maladie,
ça.
Puisque c'est vraiment l'opposé de la vie. Exempt de douleur, dans la sérénité et sans anxiété. Ce serait ça l'objectif idéal.
Alors, vous allez nous aider à l'atteindre, cet objectif, professeur Amouyel. On ne fait que commencer cet entretien. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc à la vraie vie. Aujourd'hui, à 60 ans par exemple, on a en moyenne encore 20-25 ans de vie, voire même beaucoup plus, et c'est super. Mais comment faire pour que ces années se déroulent en étant le plus en forme possible ? Eh bien, vous verrez que tout commence à 40 ans dans l'idéal. Bien vieillir, ça se prépare, on va tout vous expliquer. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Philippe Amouyel, spécialiste des maladies liées au vieillissement au CHU de Lille et directeur de la Fondation Alzheimer. Alors professeur, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. On veut que vous nous aidiez à bien vieillir. Hein. Vous êtes là pour ça, surtout pour aider Jimmy. Aujourd'hui, quand on atteint par exemple 60 ans, il nous reste donc en moyenne 20-25 ans à vivre. Et donc on a envie que ça se passe au top pendant ces 25 années suivantes. Mais ça, je crois que clairement, ça se prépare assez tôt. Hein.
Oui, en fait, un corps, ça s'entretient. Il faut en prendre soin tout au long de sa vie, le plus tôt le mieux. Alors malheureusement, quand on a 40 ans, quand on est jeune, on n'y pense pas tout de suite. Il faut attendre quelques petits symptômes là qui commencent à inquiéter les gens pour se modifier. Mais idéalement, c'est de commencer à 40 ans. Mais il faut savoir que si vous mettez en place ces mesures même tard, vous en tirerez toujours un bénéfice.
Même à 60 ou 65 ans,
même à 60 ans, 65
ans,
70 ans, vous arrêtez de fumer, au bout d'un an ou deux, vous rattraperez un risque bien meilleur que si vous aviez continué à fumer. Donc c'est important de le faire de manière régulière et le plus tôt possible, si possible.
Alors justement, pour bien vieillir, il faut commencer dès 40 ans. Il y a plusieurs axes qui sont importants, notamment l'axe respiratoire. Vous parliez, donc arrêter de fumer, ça c'est clair, hein, c'est la règle, la première.
Ça, c'est un des premiers facteurs de risque. Là. Supposer qu'on arrête, que toute la population française arrête de fumer, ça fait 70% d'accidents vasculaires en moins sur la planète. C'est un effet énorme. Quoi.
C'est énorme. Jimmy ?
Et ensuite, il y a l'axe cardiovasculaire, c'est ça ?
Oui, l'axe cardiovasculaire, parce que c'est quand même cette pompe qui va nous permettre de vivre le plus longtemps possible. Donc il faut que notre cœur soit en forme, et pour qu'il soit en forme, un des grands secrets quand même, c'est de le faire travailler, donc de faire de l'activité physique. Alors je ne parle pas de sport, de compétition, je parle juste de l'activité physique, la plus simple étant par exemple la marche. C'est très bien d'avoir un petit chien à sortir tous les soirs parce que ça vous oblige à marcher. Donc marcher, marcher quotidiennement est un élément important. Si vous aimez faire du sport, tant mieux. Si vous allez faire du sport le week-end,
encore plus, c'est mieux.
C'est encore mieux. Mais au moins ce minimum, un petit peu tous les jours. Et c'est vraiment le principe de la prévention.
Et ça, dès 40 ans, donc le cardiovasculaire, c'est donc l'activité physique, mais aussi bon, ce qu'on mange. Et le cholestérol, c'est important aussi, hein, surveiller son cholestérol.
Surveiller son cholestérol et d'une manière générale, aux alentours de 45 ans, c'est bien d'aller voir son médecin et de faire un petit bilan, ouais, un petit check-up cardiovasculaire, où il va mesurer votre pression artérielle, ce qui est un élément extrêmement important, votre concentration de cholestérol. Pourquoi ? Parce qu'on a des outils aujourd'hui qui permettent d'agir sur ces facteurs et dont on a démontré qu'ils ont un bénéfice et sur l'espérance de vie et sur la qualité de vie.
Pour bien vieillir, il faut aussi penser cancer, ça c'est une évidence, et autrement dit, dépistage. Donc ça aussi, des 40-50 ans, on s'en préoccupe, c'est quel dépistage vraiment qu'il faut absolument...
Il y a les dépistages qui sont spécifiques aux hommes et aux femmes, bien sûr, et aux deux, pour les femmes, c'est bien sûr le cancer du col de l'utérus, c'est bien sûr le cancer du sein, donc il faut voir ça avec son gynécologue, avec ses prescriptions régulières, ne pas hésiter à faire ces dépistages. Pour les hommes, c'est un peu plus tard, mais pour les hommes et pour les femmes, il faut penser à quelque chose qui est quand même la cause de décès la plus fréquente par cancer. C'est le cancer du tube digestif, le cancer du côlon. Or, il existe des dépistages qui vont chercher des petits saignements qu'on ne voit pas, qui sont totalement invisibles, avec un certain nombre de tests et qu'il faut faire régulièrement et qui permettent justement de traiter très tôt les lésions et de faire en sorte que l'espérance de vie soit conservée.
Un test dont on parle beaucoup moins souvent que le cancer du sein, mais on reçoit les kits de dépistage, on va faire à la maison. C'est très simple et ça vaut vraiment le coup. Dimitri ?
Moi, je dis souvent aux malades, n'attendez pas justement d'être malade avant de consulter. Donc, consultez même si on n'a pas de symptômes, en fait.
Exactement, je crois que c'est ce qu'on appelle la prévention. En France, on est quand même dans cette logique qu'on appelle biomédicale, c'est-à-dire je consulte quand j'ai un symptôme, c'est l'héritage de Louis Pasteur. J'ai de la fièvre, je suis malade, je prends des antibiotiques, je suis guéri. Aujourd'hui, on rentre dans un champ de maladies qui est complètement différent. C'est des maladies dont on ne guérit pas vraiment. On vit avec, on les supporte, on améliore sa qualité de vie. Et par exemple, le sida dont on parlait est vraiment devenu une maladie infectieuse et maintenant est une maladie chronique. C'est-à-dire on vit avec et on peut vivre longtemps maintenant avec. Donc c'est quelque chose qui est très important et pour le faire, il faut... pas attendre les symptômes, parce que c'est déjà un petit peu trop tard, mais être un peu avant et savoir qu'à certains âges, il faut voir son médecin. 40, 45 ans, c'est bon pour aller voir son bilan cardiovasculaire.
Tous les ans, c'est ça, à partir de 40 ans, il faut aller voir au moins une fois le généraliste, quoi.
Oui, il faut voir, c'est comme son dentiste, quoi. Il faut le voir au moins une fois par an. Mais le problème, c'est qu'on a des difficultés à trouver des médecins généralistes, mais il faut quand même aller les voir.
Il faut essayer au moins, aller tous les ans et demi, on va dire, c'est déjà pas mal. Professeur Amouyel, on n'en a pas terminé, surtout vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans quelques minutes, nous allons continuer à vous distiller tout plein de bons conseils pour mettre toutes les chances de votre côté et vous assurer de bien vieillir pour garder un corps et un esprit au top jusqu'au bout, c'est possible, mais en vrac. Il ne faut pas manquer, par exemple, de vitamine D, il faut être actif sexuellement longtemps et puis, il ne faut pas prendre sa retraite trop jeune. Et oui, bon, c'est un peu touchy en ce moment, ce sujet, mais en tout cas, d'un point de vue médical, c'est prouvé. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Philippe Amouyel, spécialiste des maladies du vieillissement au CHU de Lille et directeur de la Fondation Alzheimer. Alors professeur Amouyel, on continue notre dossier sur le bien vieillir avec vous. Si on veut être en pleine forme physique, on voudrait bien garder aussi un cerveau qui fonctionne bien jusque très tard. Et ça, pour le faire, l'un des secrets, ce sont les relations sociales.
Alors les relations sociales, c'est un des stimulus majeurs de notre vie. Les relations, les échanges, les discussions stimulent le cerveau en permanence. Le travail stimule le cerveau. L'activité quotidienne, les relations familiales sont des éléments majeurs de la stimulation. Donc être en couple, avoir des amis, voir ses amis...
Être en couple, c'est mieux qu'être divorcé quand on vieillit. Alors c'est parfois on n'a pas le choix, mais c'est clairement
malheureusement parfois on n'a pas le choix. Ouais. Mais ceux qui sont en couple ont un risque qui est diminué de 40% de développer par exemple une maladie d'Alzheimer. Quel que soit le couple.
Ah ouais, et même si on se déteste et on se dispute tout le temps, parce qu'on peut rester ensemble parfois pour son cerveau, je ne sais pas, pour rester en forme justement, mais du coup, même en se chamaillant tout le temps, ça
même
vaut le coup.
Même en se chamaillant, ah quelle que soit la relation, l'important c'est d'être à deux, de ne pas être seul. La solitude étant un facteur difficile.
Ah ouais, Jimmy ?
Du coup, donc c'est clair que solitude et isolement, c'est un facteur de mauvais vieillissement, vu que le fait d'être ensemble permet de mieux vieillir. L'inverse, du coup, est vraiment vrai ?
Exactement. La solitude, l'isolement, d'une manière générale, entraîne des réductions du fonctionnement cérébral, des réductions des fonctions cognitives, un oubli de soi qui fait que le nombre des maladies chroniques surviennent plus rapidement chez les gens, malheureusement, qui sont seuls.
Bon, et si on est en couple, en vieillissant, je crois que c'est bien d'avoir quand même pas mal de relations sexuelles. Ça aussi, c'est un facteur de bon vieillissement.
Oui, alors c'est aussi de la relation sociale, c'est de la relation humaine par définition. Et en fonction de l'âge, en fonction de la relation qu'on peut avoir, nécessaire, pas nécessite nécessairement... des rapports sexuels quotidiens.
Simplement, avec ou sans pénétration d'ailleurs. Hein,
voilà,
je crois
exactement.
Disiez,
le fait d'avoir des liens affectifs,
de
des caresses, de s'embrasser, ouais, sont des éléments extrêmement positifs pour la stimulation. Vous imaginez bien que ce sont nos sens qui alimentent notre cerveau. Donc ce sens-là est aussi important.
Alors dans cette idée de stimulation intellectuelle, je crois que aussi l'âge de la retraite, alors ça a un impact sur l'état dans lequel on vieillit. Alors vous allez faire plaisir au gouvernement parce que pour bien vieillir, il faut la prendre le plus tard possible, la retraite.
Alors on s'est aperçu que dans les différents... Ce qui est intéressant avec l'âge de la retraite, c'est qu'on ne part pas parce qu'on a envie de partir. On part parce qu'il y a des seuils légaux qui diffèrent selon les pays. Et quand on compare les niveaux de fonction intellectuelle des gens 10 à 20 ans après le départ en retraite, et que ce seuil varie nécessairement, on s'aperçoit que ceux qui partent le plus tard en retraite conservent les meilleures fonctions cognitives avec l'âge, les meilleures fonctions intellectuelles avec l'âge. Donc le fait de travailler, de maintenir ce lien social est un élément important de ce stimulus.
Jimmy ?
Même si une fois qu'on part à la retraite, on peut quand même garder une activité,
oui,
de bricolage, de cuisine.
Des randonnées, voilà, ils n'arrêtent pas.
Ça ne suffit pas à compenser cette notion de travail ?
Alors oui, en effet, ceux qui sont sur des processus de type voyage, bricolage, tous ces éléments stimulent le cerveau. Alors, mais ce sont des activités qui sont extrêmement globales et qui nécessitent une énergie importante. Mais la plupart du temps, c'est pas ce que l'on observe. Ce sont des gens plutôt qui restent au repos. Alors, des fois, certains ont des activités bénévoles dans des associations.
Et mieux vaut ça que l'inverse.
Mieux vaut ça que l'inverse, on est d'accord. Mais il y a quand même des études qui montrent que si votre travail, qu'il soit supplémentaire par rapport à votre vie antérieure, est rémunéré, le bénéfice sur le plan intellectuel est bien meilleur.
Quel que soit le travail, en plus, finalement.
Quel que soit le travail. Parce que par
ou un travail pénible, difficile, et que
il faut être payé pour que ça marche. Pour que ça voilà. Si on n'est pas payé, le bénévolat, ça fait pas, ça prévient pas la maladie d'Alzheimer.
Exactement, c'est ce que montrent les sciences neurocognitives qui analysent les raisons de la récompense et autres, que ce soit dans le jeu, dans les activités, dans les motivations. Et ben là encore, on s'aperçoit que c'est un facteur de motivation et de stimulus intellectuel.
C'est vachement intéressant. Alors, autre aspect qui est important pour bien vieillir, il ne faut pas être en déficit de vitamine D. Pourquoi ?
Alors, l'exemple de la vitamine D est important parce qu'en fait, une grande partie de la population française est en manque de vitamine D. Pourquoi ? Parce que pour fabriquer de la vitamine D, on a besoin d'avoir la peau éclairée par de la lumière.
Mais que le visage, hein, je crois.
Pas que le visage, il faut considérer la tête, les bras découverts et à peu près une demi-heure d'exposition par jour à la lumière. Malheureusement, dans notre vie quotidienne, on n'est pas dans ces situations-là.
Ici, on n'est pas gâtés, hein, dans la région parisienne et à Paris.
Bon. Mais il est nécessaire de compenser ce déficit de production, alors peut-être pas l'été puisqu'on est plus souvent exposé, mais au moins l'hiver, de penser à prendre des compléments de vitamine D qui sont prescrits par votre médecin.
Parce que c'est quoi le risque du déficit en vitamine D ? On se dit que c'est mauvais pour les os, mais pas que, hein, c'est
alors,
ça ?
Alors bien sûr, on sait que l'atteinte osseuse est importante, c'est-à-dire que les gens ont développé une ostéoporose plus importante, moins de calcium dans les os, donc une plus grande fragilité, un risque de fracture, mais on s'aperçoit aussi que ça a une action sur un certain nombre de neurones et de neurotransmissions. Par exemple, certains troubles de l'équilibre sont associés à un déficit de la vitamine D, des troubles mémoriels et également des troubles de l'humeur. On s'aperçoit souvent que des gens qui ont ces carences en vitamine D ont plutôt des tendances dépressives qui se corrigent extrêmement rapidement lorsque l'on vient assurer cette compensation.
Jimmy ?
À ce stade, on supplémente les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes, on donne une ampoule de vitamine D, les personnes âgées, mais il faudrait supplémenter tout le monde en vitamine D. À partir de quel âge il faudrait, en dehors des enfants évidemment, en donner ?
Il faudrait en donner en fonction de vos besoins. Alors aujourd'hui, comme on considère que la carence est générale, on dit aux gens, il faut supplémenter.
Tous les gens qui habitent au-dessus de la Loire, vous m'avez dit globalement.
Oui, c'est ça. C'est voilà, parce qu'il y a un problème d'exposition à la lumière, c'est évident. Donc au-dessus de la Loire. Mais il est tout à fait possible, à un moment, en particulier à 40-45 ans, de demander un dosage de la vitamine D et de voir à quel niveau on est et d'essayer de remonter ce seuil.
Vous vivez à Lille, donc vous devez en prendre beaucoup, j'imagine.
Alors, je vis à Lille, j'en prends, oui, tout à fait.
Tous les combien, par exemple ?
L'hiver, en général, je prends à peu près une ampoule de 80 millilitres par mois pendant les mois d'hiver.
D'accord, voilà. Donc c'est ça qu'il faudrait faire à peu près pour faire bien.
Voilà, c'est ça. Ça dépend des gens et de la carence qu'on peut en avoir.
Et la seule chose, c'est que ce dosage n'est plus remboursé par la Sécurité sociale. Avant, tous les généralistes ont dosé la vitamine D, on était contents, et maintenant, il est déremboursé, sauf cas très particuliers.
Sauf cas particuliers, et en particulier en cas de carence. Alors que le premier ne sera pas remboursé, mais s'il y a une carence, pour vérifier qu'il y en
faut
a une deuxième,
qu'il y en
deuxième
en une, alors,
ça, bien sûr.
Alors, pour terminer, autre aspect important, et ce sera le dernier, pour bien vieillir, bon, ça semble un peu évident, mais il faut bien entendre.
Et oui, on parlait de l'isolement tout à l'heure. Le fait de ne pas entendre génère un isolement. Puis l'autre cerveau n'aime pas ne pas entendre. Donc, notre cerveau entend un bruit, il comprend pas bien, il invente quelque chose autour, et finalement, quand vous dites quelque chose à quelqu'un qui n'entend pas bien, il vous répond complètement à côté. Et alors là, vous comprenez
pas. Donc, il
n'est
pas stimulé en plus, lui.
Alors, le cerveau n'est pas stimulé, mais en plus, son mode de fonctionnement et son organisation interne se modifient en fonction de la baisse de surdité. Donc c'est pour ça que cette surdité, il faut, ou cette baisse d'audition, ce qu'on appelle la presbyacousie, comme on a la presbytie pour la vision, il faut l'appareiller très tôt. Alors, on n'a pas cette habitude en France pour deux raisons. La première, c'est que autant porter des lunettes, ça vous donne l'air intellectuel, autant porter un appareil auditif,
ça fait vieux.
Ça fait vieux. Voilà. Donc les gens.
Et on a tort de penser ça parce que c'est indispensable.
C'est indispensable. Il y a des appareils qui sont discrets.
Il y a plus d'Alzheimer quand on n'est pas équipé, plus de maladies
dégénératives. Oui, on s'aperçoit que des gens qui ne sont pas équipés pendant longtemps et qui ont ça ont des troubles des fonctions intellectuelles beaucoup plus tôt. Puis le deuxième point, c'est le coût.
Oui, alors,
ces prothèses auditives.
Il y a quand même une prise en charge à 100% aujourd'hui. Enfin, le zéro reste à charge de Agnès Buzyn qui a été mis en place récemment. Ce n'est pas forcément les implants auditifs dernière génération. High-tech, mais c'est bien. C'est déjà...
Oui, c'est bien. C'est utile. C'est absolument, à mon avis, indispensable. On va voir ce que ça va donner. Ça a commencé cette année. Il serait vraiment important que, d'une part, le problème prix soit réduit. Et puis maintenant, il y a un problème culturel. Et il faut bien comprendre que soigner son audition, c'est aussi important que soigner sa vision.
Merci beaucoup, professeur Amouyel, d'être venu sur notre plateau. Nous donner tous vos meilleurs conseils pour que l'on vieillisse tous dans le meilleur état physique et intellectuel possible. Et donc, on retiendra que bien vieillir, ça se prépare dès 40 ans. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle des soupes, surtout celles industrielles, vendues toutes prêtes en supermarché. Les soupes en briques sont-elles vraiment aussi bonnes pour la santé qu'elles le prétendent? Pardon. On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle de l'intérêt nutritionnel des soupes industrielles. Savez-vous ce que valent vraiment les soupes en briques ou en sachets vendues en supermarché? Comment les choisissez-vous? Benjamin Lévesque a été vous poser toutes ces questions. On écoute son micro-trottoir.
Ah, surtout l'hiver, parce que j'adore ça. Bon, je les fais moi-même, parce que c'est meilleur et tout. Il y a toutes les vitamines.
Un ratio de 2 fois par mois, peut-être.
Je préfère cuisiner moi-même. Comme ça, je sais qu'est-ce que je mets dans la soupe.
Poireaux, pommes de terre, pesto, cresson, potiron, toutes les soupes. Fait maison, de préférence.
Aux légumes verts ou plusieurs légumes, ou avec des restants de nourriture, on peut faire une soupe. Voilà, des soupes maison.
C'est chaud déjà, donc ça fait du bien quand il fait froid. On sent moins l'aspect chimique. Après, c'est vrai que le point positif du surgelé, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Il n'y a pas de préparation, c'est instantané.
Je ne sais pas si ça fait maigrir, mais en tout cas, je ne pense pas qu'on grossit.
Parce qu'en brique, j'aime pas tellement. C'est différent, ils mettent des conservateurs.
Jamais en brique, plutôt en bouteille. Donc, les bouteilles en verre et des soupes faites maison, bio de préférence.
Alors Jimmy, avec cette météo, le froid en hiver, on ne dit pas non à une bonne soupe, hein, c'est réconfortant, c'est réchauffant, c'est bon pour la santé. Alors il y a ceux qui la préfèrent maison, on en a entendu beaucoup dans le micro-trottoir, mais pour les plus pressés ou ceux qui sont fâchés avec l'épluchage des légumes comme vous peut-être, je vous donne tous les défauts, je ne suis pas gentille aujourd'hui, pardon.
Alors
il y a voilà, ceux qui préfèrent acheter les briques ou les soupes déshydratées en sachet, qu'est-ce qu'on doit en penser?
Alors c'est vrai que sur les emballages c'est plutôt sympa, on voit des tomates, des pommes de terre, et on a l'impression qu'on a un produit cueilli dans la terre, sauf que ça reste des produits industriels avec tout ce qui va derrière, des plats qui sont transformés. Et pour ça, on va parler d'une enquête de 60 millions de consommateurs qui peut-être va un peu vous faire changer d'avis.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont regardé dans ce magazine? Donc, dans cette enquête, ils ont l'habitude de faire ce genre de banc d'essai.
Exactement. Ils ont testé 3 familles de soupes. Les soupes moulinées de légumes, des soupes de potiron qui sont plutôt tendance, et des veloutés de poireaux, de pommes de terre. Et ils ont regardé déjà s'il y avait des pesticides, leur teneur en fibres, le détail des ingrédients, si elles ont des vitamines, et puis le Nutri-Score. Vous avez ce code couleur qui va de A à D pour aider les consommateurs à mieux choisir leurs produits dans les rayons des supermarchés.
Alors qu'est-ce qu'ils disent les résultats finalement sur ces soupes?
Au niveau des fibres, c'est pas terrible. Il faut pas compter dessus.
C'est embêtant parce que si on mange des légumes, c'est pour les fibres.
On recommande 30 grammes de fibres par jour. Et finalement, lorsqu'on s'intéresse à ces soupes, au mieux, on en a une qui en contient 3,75 grammes par potion de 250 millilitres. C'est la référence Knorr moulinée de légumes. Donc c'est pas terrible.
Votre préféré, c'est dommage.
Et malgré tout, pour la grande majorité d'entre eux, ça ne dépasse pas le gramme de fibres par portion, bien loin des 30 grammes dont on a parlé.
Ouais, bon, alors pour les fibres, on laisse tomber, mais bon, du coup, je m'attends au pire niveau vitamines, par exemple.
Ouais, les vitamines, c'est vraiment la catastrophe. Alors, pour la version des poireaux de pommes de terre, pas de bêta-carotène qui sont bons pour la vision. Pas de vitamine B6 qui, normalement, sont présentes dans les pommes de terre. On se demande où est-ce qu'il y a de la pomme de terre, en fait.
C'est clair.
Et tout au mieux, on trouve des traces de vitamine C du côté des veloutés de légumes variés et des soupes de potiron. C'est un peu mieux. Il y a un peu plus de vitamine A, on trouve un peu plus de vitamine B9, mais c'est pas terrible parce que finalement, il y en a nettement moins que lorsqu'on utilise les légumes verts classiques.
Alors, ces soupes toutes prêtes, Jimmy, j'imagine que beaucoup, comme tous les produits industriels, finalement, ils sont trop salés aussi, peut-être ?
Ben non, là, c'est pas si mal. Ah, le magazine montre qu'on a fait des efforts.
Un bon point.
Exactement. Okay. Ça ne dépasse pas 2 grammes de sel par portion. On rappelle que l'OMS recommande 5 grammes de sel maximum par jour.
Bon, on n'a pas le temps de tout détailler. Je sais qu'ils ont regardé les pesticides. Qu'est-ce que ça dit à ce niveau-là ?
Alors, pour la plupart des soupes, c'est pas mal, parce qu'ils sont exempts de résidus, en particulier pour les références bio. Par contre, on a 5 pesticides différents qui ont été retrouvés sur l'ensemble du planel, 2 références contenant 2 résidus, dont un perturbateur endocrinien possiblement identifié.
Ouais,
pour cette raison, ça a été jugé très insuffisant.
Bon, en gros, il vaut mieux faire sa soupe maison, je crois que c'est ça la morale.
Exactement, ça peut dépanner de temps en temps, une fois par mois au maximum.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, le roi de la soupe. On se retrouve juste après.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, c'est la chronique sexo. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question de bisexualité. Enfin, Catherine répondra à la question d'une femme qui s'interroge sur le passé homosexuel de son compagnon. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, elle rentre dans le studio à l'instant, c'est Catherine Blanc. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour.
Alors,
Jimmy.
Je rappelle quand même que vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Et donc aujourd'hui, comme tous les jours, vous allez répondre à une question qui nous a été posée par un auditeur. En l'occurrence, c'est une auditrice, c'est la question de Ludivine. Je vous la lis. Mon compagnon, pour lequel j'ai beaucoup d'amour et qui me témoigne son amour en retour, a eu dans le passé des relations homosexuelles. Si je n'ai aucun jugement moral, je dois avouer être très inquiète sur la pérennité de son désir. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, on va aller droit au but. Est-ce que Ludivine a de quoi être inquiète ?
En fait, elle n'a pas de quoi être plus inquiète que n'importe qui se met en couple avec quelqu'un qui a eu préalablement des relations avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que là, toute la question qui semble la perturber, c'est de se dire que s'il a eu des relations homosexuelles, il en aura encore le souhait et qu'elle ne pourra pas combler cela. Et que donc, à terme, il sera à nouveau tenté par le diable et du coup la quittera ou en tout cas la trompera. En réalité, c'est tout aussi vrai que si il avait été, mettons que Ludivine soit une adorable petite rousse et qu'il était avant avec
des brunes,
une grande blonde mannequin, se dire que...
Il retournera au blonde mannequin.
Voilà. Ouais. C'est juste l'idée de ne pas pouvoir combler. Donc il y a une idée que toute femme peut combler une autre femme.
Quoi qu'il y ait les teintures quand même.
Voilà, donc c'est l'idée donc que toutes les femmes peuvent remplacer toutes les femmes, ce qui est faux. Puisque toute femme est singulière et offre quelque chose de particulier, et qu'une femme est renvoyée à son manque de pénis, qui a dû intéresser à un moment donné son compagnon, et qui se trouve donc être automatiquement un échec pour elle. Mais là, c'est un fantasme, et le fantasme, sans doute, quant à elle, en tant que femme, pas en tant qu'elle par rapport à un homme.
Jimmy ?
Pour autant, est-ce qu'elle doit innover dans les rapports sexuels qu'ils pourront avoir, ou faire finalement dans une relation classique sans considérer son passé homosexuel et se dire bon bah je vais pas chercher à le satisfaire différemment, on va juste avoir une relation sexuelle comme j'ai pu l'avoir par le passé.
Ah oui, bien sûr, il faut avoir une relation selon son mode à soi, elle va pas jouer avec des objets, des outils à un homme qu'elle n'est pas. Évidemment que c'est se dire que était-il avec un désir homosexuel ou une curiosité un peu tous azimuts comme certains peuvent l'essayer juste parce que c'est à la mode, tout ça on n'en sait strictement rien. Peut-être que il faut qu'elle reste dans la réalité de ce qu'elle est, sinon c'est là que se fait le danger le plus grand, bien évidemment.
Vous pensez que si ça avait été l'inverse, son compagnon aurait été aussi inquiet ? Parce que j'ai l'impression que ça dérange moins les hommes que les femmes, ce genre de questionnement.
Ça le dérange moins parce que les hommes n'ont effectivement le fantasme, mais c'est parce que les hommes ont des pénis et que les femmes n'en ont pas que les choses sont très différentes. C'est que les hommes ont le sentiment que si une femme va voir une autre femme, de toute façon, elles sont à un moment donné face à une impasse. Il manque un pénis et je l'ai. Alors que dans le cas d'une femme qui est avec un homme qui est allé voir un autre homme, eh bien, elle est face à sa réalité, sa castration, en quelque sorte, c'est le terme qu'on emploie en psychanalyse, et qu'il lui faut accepter cette castration d'un pénis, qui de toute façon, elle n'a jamais eu, évidemment.
Est-ce qu'elle doit lui avouer à son compagnon cette crainte, il a été honnête sur son passé homosexuel, est-ce qu'elle doit lui dire, moi, ça me fait peur ?
Elle peut, bien sûr. Il ne pourra pas lui en dire grand-chose, si ce n'est qu'il est attaché à elle, qu'il aime et qu'il la désire. Mais que sait-il de lui de demain? Bien évidemment qu'il la rassurera encore une fois. Vous savez, c'est comme dire à une femme « je t'aime », si elle est en doute quant à elle, si vous ne lui dites
elle
pas toutes les deux secondes, elle ne le croit pas. Donc, c'est vraiment une histoire plus individuelle pour elle, qui est de travailler sa confiance en elle, sa légitimité dans cette relation, et d'observer la tendresse, la créativité de la relation, la richesse de cette relation, et la nourrir surtout. Le problème, c'est que les couples oublient de nourrir leur relation, et dans ce cas précis, ça ne fait que, évidemment, ouvrir la brèche un peu plus.
Dimi,
est-ce qu'on peut dire que le compagnon de Ludivine est bisexuel?
Ben, il est bisexuel, en tout cas il a fait l'expérience de deux types de sexualité en effet. Cela étant, est-ce qu'il est, enfin moi j'aime pas arrêter les choses, est-ce qu'il est bisexuel, enfin, à ce titre vous savez, nous grandissons en fabriquant des fantasmes qui sont de type hétérosexuel et de type homosexuel, chacun d'entre nous, sans pour autant nécessairement tous en faire l'expérience. Eh bien il en a fait l'expérience, est-ce que ça le fige dans une bisexualité, et est-ce que ne pas en faire l'expérience veut dire qu'on ne le serait pas? Je crois que tout ça est une façon de vouloir mettre les gens dans les cases. Ils essaient de vivre ce qu'ils créent et ce qu'ils nourrissent au quotidien.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans notre grand dossier du jour, on va prendre soin de vos mains. Et oui, puisqu'avec le temps, elles se creusent. Il y a parfois même des taches à cause du soleil. Ce qu'on appelle les fleurs de cimetière, vous connaissez peut-être. Eh bien, nous verrons demain toutes les techniques anti-âge pour retrouver des mains de bébé.